le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Diéki.
Après plus de 48 heures d'attente, les résultats provisoires de l'élection présidentielle ivoirienne ne sont toujours pas proclamés. Alors pourquoi et que va-t-il se passer? Nous interrogerons dans quelques instants Noukman Koulibaly, journaliste travaillant pour l'agence Reuters en Côte d'Ivoire.
D'accord, pas d'accord, participez au JDA pour faire bouger les choses.
Oui, bonjour amis du JDA.
Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et
bonjour Richard,
bonjour Eugénie.
Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Mais avant cela, eh bien, parlons de ce sommet de deux jours, un sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Tripoli, qui s'est terminé hier mardi et dont nous fait écho Pierre, le professeur Yves Ekwe-Amaïso, pardon. Professeur Yves Ekwe-Amaïso, bonjour.
Bonjour, Eugénie.
Alors, vous êtes à Vienne, en Autriche. Vous êtes consultant international, expert auprès de l'Union africaine. Alors, quel était l'objet de ce sommet Union africaine-Union européenne à Tripoli?
Alors, il faut rappeler que c'est le troisième sommet qui a lieu, bien sûr, à Tripoli, sous la présidence du colonel Kadhafi. Alors, les thèmes sont nombreux, comme vous savez, mais quand même, il y a eu une focalisation sur le commerce, sur le climat, vous savez qu'il y a une réunion qui était concomitante à Cancun, bien sûr sur l'aide au développement de manière indirecte, la diaspora, on en parlera rapidement, et aussi sur l'énergie, voici les grands, vraiment grands axes, mais vous savez, beaucoup de choses se sont passées en fait en bilatéral.
Alors beaucoup de choses, notamment on sait très bien le franc-parler du guide libyen, donc ils sont les prix à l'Europe, à l'OMC, au FMI et à la Banque mondiale, à l'ouverture donc du sommet Afrique-Europe, et puis on sait qu'il s'est terminé pratiquement sans accord.
Vous avez entièrement raison, c'est un sommet vraiment sans accord. J'irai même plus loin, il me semble que l'Afrique est devenue décomplexée, c'est-à-dire qu'elle ose dire tout haut ce qu'elle disait en fait tout bas, et que même les menaces qui se passent en dehors de la négociation principale région vis-à-vis autres régions, notamment les aides bilatérales qui viennent souvent faire ou conduire à de l'autocensure de certains de nos États, même cela n'a pas empêché un certain nombre de positions communes. Je prendrais pour commencer par exemple le cas du président soudanais qui devait absolument venir, et jusqu'à la dernière minute, certains chefs d'État européens, dont la France, n'y se sont pas rendus, pas que pour ça, mais en tout cas, c'était une raison valable pour cela, et le guide libyen a dû insister pour que son collègue du Soudan ne vienne pas. Donc, il y a d'autres sujets. Alors, pour dire plus précisément, l'Afrique a osé, je pense aussi avec l'influence des pays émergents, dont la Chine, le Brésil et d'autres, dire tout haut ce qui ne va pas. C'est ça qui a conduit, en fait, il faut le dire tout haut aussi, à un échec. Et ce qui fait que la conclusion de ce qu'on pourrait appeler actuellement le faux consensus de Tripoli, c'est que la déclaration de Tripoli, comme on l'appelle officiellement, c'est qu'on s'est mis d'accord qu'il faut continuer quand même à faire du partenariat, mais pour le moment, il n'y a pas de résultat.
Alors justement, il y a des divergences, donc vous le dites, qui persistent, notamment sur ces accords de partenariat économique. Que veut l'Afrique et que dit l'Union européenne?
Alors là, vous avez posé du doigt le problème. L'Union européenne a des positions très claires qui consistent à ouvrir l'ensemble des économies africaines. Mais vous savez que les États africains vivent essentiellement des recettes qui viennent des taxes sur les importations.
Oui.
Et nous, la plupart de nos importations viennent de l'Union européenne pour la plupart des pays, en restant général et en allant vite au sujet. Alors qu'est-ce qui se passe? Si l'Europe dit d'ouvrir l'ensemble des marchés, ça veut dire que l'État africain n'a plus de recettes ou très peu de recettes.
Mmh.
Alors, résistance automatique, il y a un refus, première chose. Le problème, c'est que les États sont pas tous à la même enseigne, donc un pays qui exporte beaucoup, Côte d'Ivoire ou d'autres qui ont des grandes matières premières exportées, n'ont pas le même problème avec l'Union européenne que des petits pays qui, sur ce plan-là, peut-être différent. Donc le consensus, même au niveau sous-régional, ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça que vous avez eu quelques pays qui ont signé un sort d'accord intérimaire et puis d'autres qui ont carrément refusé. Donc cette bagarre continue au sein des Africains d'abord et puis maintenant entre l'Afrique et l'Union européenne. Alors, mais le fond du problème, c'est ça. Alors l'Europe répond en disant, mais écoutez, je vous donne suffisamment d'aide, je suis le plus important en termes d'aide, mais c'est comme si on voulait nous dire qu'au fond, l'aide permettait de remplacer l'investissement
dans
le commerce, ce qui est absolument pas acceptable.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies et moyens pour que l'Afrique se développe? Je pense que c'est ce qu'a dit Kadhafi en filigrane.
Bon, alors, Kadhafi, qu'on soit précis dessus, c'est bien de faire de la critique, c'est mieux encore de soutenir réellement le développement de l'Afrique. Mmh. Alors, il investit un peu dans plusieurs endroits en Afrique, malheureusement, il n'investit pas dans les capacités productives qui doivent créer de l'emploi, qui doivent créer des pouvoirs d'achat, qui doivent distribuer des salaires. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Alors, pour revenir sur votre question, vous avez entièrement raison, il y a des possibilités alternatives. Mmh. Et elles sont obligatoires, elles doivent obligatoirement, surtout après la crise de 2008, crise financière de 2008, elles doivent passer par la création d'emplois. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que même les relations avec l'Europe, même les relations avec la Chine ou les pays émergents doivent aboutir à créer des industries ou des structures qui créent de la production, que ce soit dans l'agriculture, l'industrie ou même dans le service, en Afrique. Malheureusement, ce qui se passe, nous avons un taux de croissance qui est en train de remonter, ce qui est bien. Malheureusement, le contrat social qu'il y a derrière cette création de nouvelles croissances ne se traduit pas, en fait, concrètement, d'abord à la création d'emplois, encore moins à des industries. Et vous allez voir que c'est le gros problème aujourd'hui, qui n'est pas le problème européen, qui n'est pas le problème chinois, qui est un problème africain. Mmh. On n'arrive pas encore à comprendre qu'on ne peut créer de l'emploi, et donc derrière cela, la stabilité, etc., que si on crée localement en Afrique. Et donc, on doit soutenir cette intégration régionale, et on doit, en fait, penser, augmenter les échanges de produits manufacturés entre nous-mêmes, donc les Africains, et bien sûr, faire en sorte que ces produits de qualité permettent maintenant l'exportation vers le marché international.
Alors, est-ce qu'il faut laisser la Banque mondiale et le FMI toujours décider à notre place? C'est ce qu'a dit Kadhafi, hein. Il a même dit que ce sont deux organisations qui ont détruit l'Afrique. On sait également que Herman Van Rompuy, qui est président du Conseil européen, lui a répondu avec tact que prospérité économique rimait avec bonne gouvernance, sauf que l'on constate que ces mêmes donneurs de leçons n'hésitent pas à dérouler le tapis rouge lorsque, par exemple, un président chinois arrive en France, par exemple.
Absolument. Non, je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ceci. Alors, précisons, la Banque mondiale, les organisations du Washington, vous savez que depuis 2-3 années, maintenant, en tout cas, après la crise, le consensus de Washington est tombé. On parle même de consensus, même de Shanghai ou de Pékin, mais en tout cas, le consensus de Washington ne fonctionne pas, et les Américains sont eux-mêmes d'accord dessus, eux-mêmes ont soutenu General Motors, par exemple, pour prendre une entreprise privée, avec l'argent du contribuable. Donc, sur ce plan-là, il y a quand même une évolution. Bien sûr, sur le passé, on ne peut pas revenir sur les plans d'ajustement structurel dans lesquels la Banque mondiale est relativement fautive, et d'ailleurs, elle devrait payer pour ça.
Elle devrait payer pour ça.
Malheureusement, elle ne le fait pas aujourd'hui, et donc, on a un gros problème, parce que ceux qui ont mal conseillé l'Afrique auraient dû être aussi des gens qu'on doit demander de payer l'addition, et pour le moment, ils le font pas. D'ailleurs, c'est le même problème au niveau climatique sur lequel on reviendra. Alors, sur le deuxième point que vous posez, la bonne gouvernance, ben, vous avez raison aussi. Mais cette bonne gouvernance, après tout, 50 ans se sont passés en Afrique, et je ne pense pas que les pays européens, pour ne pas citer certains d'entre eux, ont été très regardants sur des régimes dictatoriaux, des régimes qui refusent la vérité des urnes, des régimes qui refusent les élections propres, et vous allez voir les deux poids, deux mesures. Regardez ce qui se passe en Guinée, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en termes de, quand même, malgré tout, de démocratisation du processus électoral, et regardez ce qui s'est passé avec 80% en Burkina Faso ou ailleurs, où vraiment, on se demande où était l'Europe quand on a des scores aussi loin de la vérité des urnes. Donc vous voyez bien que là, je pense qu'il faut raison garder, ne pas trop donner de leçons à l'Afrique. C'est pas pour cela qu'il faut soutenir aussi le fait que la Chine vient en Afrique et, bon, oublie la culture, oublie la démocratisation, oublie les droits humains, fait des affaires, et de ce point de vue, certainement à moyen long terme, ce n'est pas une bonne chose pour l'Afrique.
Monsieur Gouéné, sur le sommet Union africaine, Union européenne, bonjour, je vous écoute. Allô?
Allô?
Oui, monsieur Gouéné, je vous écoute.
Monsieur Gouéné.
Oui.
Oui, bonjour. En ce qui concerne, moi, je pense que aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, les Africains doivent vraiment penser à cette union africaine. Parce que seul, chacun de son côté, ne peut pas lutter contre ces puissances-là. Il faut que l'Afrique forme cette union africaine pour que demain, on puisse parler d'une seule voix. Oui. C'est vrai que les différents pays d'Afrique, comme le votre interlocuteur le disait, chacun, ils ont pas chacun la même force de frappe. Mais tous ensemble. Et puis, il faut aussi que les Africains eux-mêmes commencent à penser pays industriel. Parce que nous ne sommes pas encore des pays industriels. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore intégré dans notre esprit que ce qui fait la force des pays occidentaux, c'est parce qu'ils sont seulement des pays industriels. Ils fabriquent, ils conçoivent. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais je pense que l'union doit germer dans l'esprit de tous les jeunes Africains pour que dans les 10 ans qui viennent, on forme cette Union africaine.
Merci. Merci, Monsieur Gwenné. Professeur Yves Ekwueyemaizo, pour conclure.
Je partage parfaitement ce qu'il vient de dire. Il a touché du doigt le vrai problème africain. C'est-à-dire qu'il y a, deux choses. Il y a la solidarité. Vous avez des pays qui sont très riches en Afrique, qui présentent des réserves de balance paiement extraordinaires. Mais malheureusement, on est en train d'essayer de créer le Fonds monétaire africain, dans lequel on va essayer justement les pays les plus faibles de les soutenir sur le plan budget pour faire quoi? Pour qu'ils permettent de créer l'industrie, l'industrialisation dont parle notre interlocuteur. Donc il a parfaitement raison. Seulement quand on va dans la solidarité africaine, ça ne fonctionne pas. C'est ça le vrai problème. Vous avez des pays qui veulent bien donner de l'argent, mais en même temps veulent, entre guillemets, vous coloniser ou vous avoir un certain pouvoir sur vous, et donc les petits pays refusent, et très souvent ces petits pays, en refusant le voisin géant, préfèrent aller retourner au Fonds monétaire international. Ça c'est pour le côté solidarité. Mais c'est nécessaire. D'ailleurs, je parle dans mon nouveau livre de solidarité contractuelle, que ce soit écrit et que personne, tout le monde puisse avoir accès sur le base transparente pour voir si, un, on a fait le bon choix, deux, si on l'a réalisé, et trois, si on l'a pas fait, qu'on sache pourquoi et pour corriger pour le futur. Sur l'industrialisation, alors là, je veux pas mieux soutenir.